Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel.
Rencontre avec Mikhaïl Rudy, troisième partie.
Il y a la littérature qui, en plus de la musique, est omniprésente. Moi, j'étais très ému en lisant la manière dont vous découvrez la littérature, Kafka, Nietzsche, Henri Michaux aussi, que vous citez parfois. Et puis, vous dites à un moment de cette très belle phrase, vous vous créez une vraie famille dans laquelle il y a Montaigne, il y a Marc Aurèle, il y a des philosophes chinois, il y a Proust aussi. Et là, je découvre avec consternation que le traducteur de Proust a été exilé dans un camp en Sibérie où il est mort. Et il a fallu attendre les années 80 pour que « À la recherche du temps perdu » soit intégralement traduit en russe.
Tout à fait. J'avais les photocopies achetées au marché noir de livres édités dans la fin des années 20, début des années 30, des premiers quatre volumes de « À la recherche du temps perdu ». Quand je parle de photocopies, je parle des photos faites avec l'appareil des photos.
Oui, racontez-nous ça, parce que les photocopieuses, c'était interdit.
Les photocopieuses normales existaient. Mais il était sous verrou et il fallait la permission spéciale pour accéder, que je ne pouvais absolument pas avoir. Il y avait que des chercheurs ou des gens de pouvoir. Enfin, je n'avais aucun moyen d'avoir l'accès aux photocopieuses. Et la photocopie, sans permission, était passable à la prison. Donc, ce qu'on pouvait faire, c'est photographier les livres. Et du coup, un livre, un papier épais, recto, un livre devenait vraiment un objet qui pesait de plusieurs kilogrammes. Je me souviens que ces quatre volumes de recherches temps perdu remplissaient une grande partie d'armoire. Et en fait, l'histoire des traducteurs, il fallait attendre les années 90 même pour que le recherche temps perdu soit traduit dans l'intégralité. Mais j'avais toute une librairie de plusieurs centaines de volumes de ces photocopies. Donc il y avait mais les classiques, enfin des choses qui paraissent aberrantes, enfin Saint-Augustin, Marc Aurèle, je sais pas, des classiques, Sigmund Freud, enfin tout ça, c'était, on pouvait pas les acheter. Mais après il y avait encore autre chose qui s'appelait samizdat. Ça c'est encore quelque chose. Parce qu'il y avait des
samizdat en russe, ça veut dire l'auto-édition.
L'auto-édition. Hein. C'est-à-dire, il y avait des auteurs dont on n'a jamais publié une ligne officiellement. Et le pays entier, en tout cas une partie du pays entier, l'élite et les contestataires connaissaient pratiquement l'œuvre par cœur. Je parle par exemple sur le poète Joseph Brodsky, qui à l'époque était jugé pour le parasitisme et envoyé en Sibérie parce qu'il n'avait pas un travail officiel, et c'est un futur prix Nobel et un des plus grands poètes du XXe siècle. Et les Russes connaissaient ses œuvres, on les écrivait à la main. Quand on vous donne un livre, vous le lisez la nuit, vous écrivez vous-même, enfin vous redistribuez. En fait, les œuvres de Brodsky étaient connues comme ça. Tout ça, c'était strictement interdit, mais c'était la façon, comme disait la poétesse Anna Akhmatova, c'était les méthodes d'avant Gutenberg.
Et alors, il y a un autre poète que vous évoquez et qui est une histoire qui est vraiment bouleversante, c'est celle du poète Ossip Mandelstam, dont la femme Nadiejda qui veut dire espoir, apprenait par cœur les poèmes parce qu'il ne pouvait pas même les écrire. Et donc, elle les apprenait par cœur et elle les a publiés, récités après. On est comme dans Fahrenheit 451, le film de Truffaut et
le livre de Bradbury. Bien sûr, c'est une histoire bouleversante et c'est commencé quand Ossip Mandelstam, qui était déjà très, très célèbre en Russie des années 30, un des plus grands poètes déjà avant la Révolution, mais il a eu le malheur d'écrire une poésie contre Staline. Donc, ça est devenu connu à Staline, et donc, il était constamment poursuivi par les gens de KGB. Il ne pouvait pas écrire parce que tout ce qu'il écrivait était instantanément confisqué. Donc il risquait sa vie. Les 10 dernières années de Mandelstam, donc quand il créait une nouvelle poésie, sa femme les apprenait par cœur. Donc ça commençait déjà de vivant de Mandelstam. Donc 10 dernières années de sa poésie. Et après, en fait, quand Mandelstam était finalement arrêté deuxième ou troisième fois, elle était arrêtée plusieurs fois, mais la dernière fois, elle était arrêtée, il est mort Extrême-Orient, en camp de concentration. Sa femme voulait se suicider. Et en même temps, son meilleur ami, poétesse Anna Akhmatova, voulait aussi, parce que elle a perdu deux maris. Un était fusillé, poète Nicolas Gumilov, et l'autre, critique d'art, Pounine. Tous les deux sont morts et son fils était emprisonné. Et donc, tous les deux discutaient comment il faut finir avec la vie. Et Nadezhda Mandelstam fait cette remarque que j'ai fait comme une des épigraphes de mon livre, qui à cette époque-là, je ne savais pas que la vie ne nous appartient pas. Et c'est vrai que sa destinée, elle était devant elle. Elle ne savait pas qu'en fait, malgré la tragédie qu'elle vivait, le plus grand sacrifice, le plus grand acte d'héroïsme était encore à venir. C'est-à-dire, c'est à partir de là où elle est devenue gardienne de toute l'œuvre de son mari pendant près de 30 ans, elle répétait tous les jours les poésies de son mari avant de les publier dans les années 60 à l'Occident. Mandelstam était publié officiellement seulement dans les années 80. Jusqu'à là, elle n'était pas publiée, mais les œuvres étaient déjà publiées par Nadezhda à l'Occident à partir des années 60. Et donc, elle était gardienne de tout ça. Elle écrit d'ailleurs les mémoires absolument bouleversantes qui s'appellent « Contre tout l'espoir ». Il y a un jeu de mots parce que l'espoir, c'est Nadezhda. Против всякой надежды. Donc, c'est contre tout espoir. Il y a ce jeu de mots terrible. C'est un livre poignant. Et les gens comme elle, je la rencontrais, mais très brièvement en Russie. Je l'ai vu. Elle ressemblait beaucoup à ma grand-mère. Mais je ne l'ai pas bien connu, mais des gens comme ça étaient des vrais héros pour moi, et donc c'est à partir avec des gens comme ça que je me construis ma propre vision du monde.